الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le plus grand service rendu à l'humanité. Excellence de la récitation de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne décéda et un ancien pieux le vit en rêve. Ma fa'ala Allahu bika. Comment Allah t'a-t-il traité? Demanda ce dernier. Allah m'a pardonné, répondit la personne. Pour quelle raison? Demanda l'aîné. Ce à quoi la personne répondit. J'avais l'habitude d'écrire des hadiths avec un muhaddith, expert en science du hadith. Il récitait la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je la récitais également à voix haute, qui était aussi entendue par les personnes présentes. Ils récitaient ensuite eux aussi la salat. Avec la bénédiction de cela, Allah nous a tous pardonnés. Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens n'aiment pas les désobéissants. Chers frères musulmans, commettre des péchés entraîne des pertes et des préjudices dans ce monde et dans l'au-delà. Les pécheurs ne bénéficient d'aucun respect dans le cœur des gens. En relation avec cela, 6 narrations sont présentées ci-dessous. Elles ont été extraites des pages 66-67 du premier volume de Jahannam Mele Janeva Le A'mal, un ouvrage publié par le Maktabatul Madina de Da'wat-e Islami. Numéro 1. Ummul Mu'minin Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu anha envoya une lettre à Amir Muawiyah radiyallahu anhu. Amma ba'd. Après avoir loué Allah et envoyé la salat sur le prophète, lorsqu'une personne désobéit physiquement à Allah, elle sera condamnée par ceux qui l'ont autrefois acclamé. Numéro 2. Craignez que les cœurs des musulmans commencent à vous mépriser alors que vous restez dans l'ignorance de cela. Le compagnon Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu. Numéro 3. Allah crée son déplaisir dans le cœur des croyants envers quiconque lui désobéit en privé. Il le fait d'une manière dont la personne reste inconsciente de cela. Sayyiduna Fudayl rahmatullahi alayh. Numéro 4. Lorsque l'imam Muhammad bin Sirin rahmatullahi alayh était endetté et en fut intensément bouleversé, il dit « Je considère un péché que j'ai commis il y a 40 ans comme la cause de ce chagrin. » Numéro 5. Un homme commet un péché en secret et la disgrâce l'afflige à cause de cela. Le Tabi'i Suleyman Taimi rahmatullahi alayh. Numéro 6. Sayyiduna Yahya bin Mu'adh rahmatullahi alayh a déclaré « Je suis très surpris de voir une personne intelligente qui supplie. Ô Allah, ne fais pas plaisir à mes ennemis en permettant que des calamités me vainquent. » Alors qu'il provoque lui-même les causes qui conduisent au contentement de ses ennemis. Lorsqu'on lui demande comment cela se produit, il répond « La dite personne désobéit à Allah et rendra ainsi ses ennemis heureux le jour du jugement. » Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Quel est le plus grand service rendu à l'humanité? Chers frères musulmans, appeler les gens vers la droiture et les protéger du péché est un acte qui apporte un immense bénéfice. Répondre aux besoins de l'ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accablé de chagrin en matière de maladie, de chômage et de dette est en effet une bienfaisance. Faire cela rend une personne éligible à entrer au paradis. Cependant, le plus grand service rendu à l'humanité et le plus grand bienfait qui leur est offert est de prendre des mesures pour les protéger de l'enfer. Deux attributs sont évoqués comme étant supérieurs à tous les autres. Croire en Allah Azza wa Jal et profiter aux musulmans. En revanche, deux attributs sont considérés comme pires que tous les autres. Associer des partenaires à Allah Azza wa Jal et causer du tort aux musulmans. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Mieux que le monde entier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour au quatrième calife de l'islam, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu. Ô Ali, qu'Allah azza wa jal guide une personne à travers toi est mieux pour toi que tout ce sur quoi le soleil se lève, c'est-à-dire c'est mieux que tout ce qui se trouve dans ce monde. Mieux que des chameaux rouges. Chers frères musulmans, instaurez avec ardeur l'appel à la droiture. En faisant ainsi, même si une seule personne développe l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'engage sur la bonne voie, rejoint l'environnement religieux de Da'wat islami, adopte la sunnah, commence à éprouver du plaisir dans sa prière et s'associe avec des personnes vertueuses, alors, incha'Allah, vous obtiendrez aussi du succès dans l'au-delà. Le dernier prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si Allah accorde à une seule personne l'orientation à travers vous, cela vaut mieux que de posséder des chameaux rouges. » Que signifient les chameaux rouges dans ce contexte? Commentant ce hadith, le célèbre savant Yahya bin Sharaf al-Nawawi rahmatullahi alayh écrit « Les chameaux rouges étaient considérés comme un bien précieux par les Arabes, et c'est pourquoi ils ont été mentionnés ici de manière proverbiale. La comparaison d'une chose liée à l'au-delà avec cette vie mondaine n'a qu'un but explicatif. En réalité, même une once de la faveur de l'au-delà éternel est meilleure que le monde et tous les mondes similaires que l'on peut imaginer. » Le mufti Ahmad Yar Khan rahmatullahi alayh a également rédigé un commentaire à ce sujet. Amener un mécréant à l'islam vaut mieux que la plus grande richesse du monde. L'encourager à devenir un musulman vaut mieux que de mettre fin à sa vie, car ses descendants deviendront également musulmans si Allah Azza wa Jal le veut. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Le cancer guéri par les bénédictions de l'intention de voyager avec un madani qafila de 12 mois. Chers frères musulmans, pour développer la passion de l'appel à la droiture, agir selon la sunnah, récolter la récompense des bonnes actions et augmenter l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans votre cœur, restez affilé à l'environnement religieux de Da'wat islami. Efforcez-vous de protéger sans relâche votre foi. Accomplissez la prière à l'heure, mettez en pratique la sunnah et menez vos affaires courantes conformément au livret des actions pieuses. Afin de rester ferme sur ce dernier point, faites l'examen de vos actions et remplissez quotidiennement le livret des actions pieuses. Vous pouvez ensuite le soumettre à la personne responsable de Da'wat islami de votre localité respective le premier jour de chaque mois. Pour l'accomplissement de notre objectif religieux, je dois m'efforcer de corriger et de corriger les gens du monde entier. Voyager tous les mois avec un madani qafila d'au moins 3 jours inspiré de la sunna. Vous serez en compagnie de ceux qui aiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour encourager davantage le lecteur, nous avons joint l'événement suivant. La mère d'un frère musulman de Lahore souffrait d'un cancer depuis près de 3 ans. Elle passait des examens médicaux tous les 2 mois. Le frère musulman était très affecté par l'aggravation de la maladie de sa mère et ses visites répétées chez le médecin. Le mois béni de Ramadan arriva. Ce frère eut le privilège d'accomplir l'ittikaf aux côtés d'autres dévots du messager sallallahu alayhi wa sallam. Pendant cela, il invoqua abondamment pour le rétablissement de sa mère. Avec les bénédictions de l'environnement religieux de Da'wat islami, il fit l'intention de voyager avec un madani kafila de 12 mois. Le 21e jour du Ramadan, sa mère passa de nouveaux examens médicaux. Lorsque les résultats arrivèrent, Deux jours plus tard, ils ne crurent pas leurs yeux. Ces derniers étaient totalement normaux. La mère de ce frère musulman a été atteinte d'un cancer pendant 3 longues années, mais alhamdoulillah, elle a été guérie grâce aux bénédictions de l'intention qu'il avait fait de voyager avec un Madani Kafila de 12 mois. Madani prescription pour le cancer et autres maladies. Chers frères musulmans, le cancer est considéré comme une maladie incurable par les experts médicaux. Pourtant, il a été guéri dans l'environnement religieux de Dawat Islami par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Apprenons maintenant un remède spirituel pour le cancer, le diabète, la tuberculose, les maladies cardiaques et rénales, en fait pour tout type de maladie. Dans l'un de ses livres, l'auteur Tabi'i Wahab bin Munabbih rahmatullahi alayh décrit comment une personne touchée par la magie doit prendre 7 feuilles vertes d'un jujubier et les écraser entre 2 pierres. Après avoir mélangé le tout dans de l'eau, il faut souffler dessus après avoir récité l'ayatul kursi et les 4 sourates commençant par le mot qul. On doit boire 3 gorgées de cette eau et prendre un bain avec ce qui reste. Inch'Allah, sa maladie sera guérie. Ce traitement est également très bénéfique pour la personne qui a été empêchée par la magie de sa femme. Ismat melak pech hon so bal hazar kaj, ye sari gutti ek teri sidhi nazar ki hai. Explication de ce couplet de l'imam Ahmad Raza Khan. Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, peu importe le nombre de complications et de tribulations qui me sont prédestinées, je ne te demande qu'un regard direct de bienveillance et de grâce. Toutes les complications et tribulations seront résolues, incha'Allah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. 6 remèdes pour les péchés. Nos pieux aînés, rahimahullah, appelaient les autres à la droiture de manière unique. Un homme vint un jour le saint Ibrahim bin Adham, rahmatullahi alayh, et lui dit « Je commets de nombreux péchés. Veuillez me suggérer un remède pour cela. » Sayyidina Ibrahim bin Adham, rahmatullahi alayh, déclara la première fois « Lorsque tu as la ferme intention de commettre un péché, renonce à consommer la subsistance d'Allah. » Étonné, l'homme dit « Quel genre de conseil me donnes-tu ? Comment cela est-il possible ? Seul Allah est le fournisseur de la subsistance. Si je ne mange pas sa subsistance, que mangerai-je alors ? Voyez, s'exclama le saint, comme il est odieux de désobéir au Créateur dont vous consommez la subsistance. » Expliquant son deuxième conseil, Sayyidina Ibrahim bin Adham rahmatullahi ta'ala alayh dit « Après avoir fait l'intention de pécher, quitte le royaume d'Allah. » « Comment est-ce possible ? » répondit l'homme. « Nord, sud, est, ouest, droite, gauche, haut, bas, où que j'aille, je trouverai le royaume d'Allah. Il est impossible de le quitter. » « Voyez !» s'exclama encore le saint. Comme il est pitoyable de désobéir à Allah alors que vous vivez dans son royaume. Le troisième conseil du saint, lorsque tu as la ferme intention de pécher, cache-toi là où Allah ne pourra pas te voir. Comment est-il possible qu'Allah ne me voie pas ? Répondit l'homme, alors qu'il est même conscient de l'état intérieur de nos cœurs. Regarde ! Comme il est mauvais pour toi de désobéir à Allah alors que tu acceptes qu'il soit Samir et Basir, entend tout et est omniscient. Tu dis aussi avec certitude qu'il te regarde tout le temps. Et même dans ce cas, tu pèches encore. Le quatrième conseil, quand Israël alayhi salam viendra enlever ton âme, dis-lui de te laisser un peu de temps pour que tu te repentes. Qui suis-je pour demander cela ? Répondit l'homme. Qui m'écoutera ? L'heure de la mort est déjà fixée, et je ne recevrai
même pas une seconde de grâce. Mon âme sera instantanément enlevée de mon corps. Si tu sais que cela n'est pas sous ton contrôle et que tu ne peux acquérir aucun temps supplémentaire pour te repentir, a expliqué le saint, pourquoi ne pas apprécier le temps que tu as maintenant et te repentir avant que l'ange de la mort, alayhi salam, n'arrive? Le cinquième conseil, lorsque Munkar et Nakir entrent dans ta tombe après ta mort, détourne-les. L'homme répondit, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Comment puis-je les repousser? Quelle force ai-je? Dans une autre explication étonnante, le saint dit, si tu ne peux pas détourner les anges, pourquoi ne te prépares-tu pas à répondre à leurs questions? Le sixième et dernier conseil commençait par, si on t'ordonne d'entrer en enfer le jour du jugement, alors dis, je refuse d'y aller. L'homme répondit, mais les pécheurs seront traînés et jetés là-dedans. Sayyidina Ibrahim bin Adham, rahmatullahi alayhi, résuma. Lorsque vous ne pouvez pas renoncer à consommer la nourriture d'Allah, ni quitter son royaume, ni vous cacher de lui, ni obtenir un temps supplémentaire pour vous repentir, ni détourner Munkar et Nakir, ni vous sauver du châtiment de l'enfer si on vous ordonne d'y entrer, alors pourquoi ne renoncez-vous pas au péché? Ces six remèdes au péché sous forme de six conseils émis par Sayyidina Ibrahim bin Adam rahmatullahi alayh eurent un effet puissant, indélébile sur le cœur de l'homme. Ce dernier pleura amèrement, se repentit sincèrement de tous ses péchés et resta ferme sur ce point jusqu'à sa mort. Allah Azza wa Jal nous observe. Chers frères musulmans, les six remèdes aux péchés décrits dans la narration susmentionnée sont très efficaces. Si une personne ayant l'intention de commettre un péché les contemple, elle dispose d'un remède très efficace pour se retenir. Il est certain que si la seule pensée qu'Allah Azza wa Jal observe devient fermement ancrée dans l'esprit d'une personne, elle ne s'approchera pas du tout du péché. Le texte suivant se trouve aux pages 12 et 14 du livret Gunahon ka Ilaj, publié par le Maktabatul Madina de Da'wat Islami. En effet, si une personne se rend compte que son Seigneur l'observe alors qu'elle commet un péché, elle ne le fera pas. Si quelqu'un a l'intention de dire un mensonge, il peut penser qu'il peut tromper l'autre personne en lui faisant croire qu'il est sincère. Mais la réalité reste qu'Allah Azza wa Jal observe et il est conscient des intentions de chacun. Dans Kanzul Iman Ma'a Khaza'inul Irfan, une traduction du Saint-Coran publiée par le Maktabatul Madina, on y trouve la traduction suivante du verset 19 de la Sourate Al-Mu'min. Traduction de Kanzul Iman, Allah connaît le regard secret, c'est-à-dire immoral, de tout ce qui est caché dans les cœurs. Commentant ce verset, Allama Sayyid Muhammad Na'imuddin Muradabadi rahmatullahi alayhi écrit « La traitise des yeux, le fait de regarder secrètement un non-mahram et de jeter des regards sur des choses interdites, tout cela est connu par Allah. » Effet psychologique. Chers frères musulmans, si l'on réfléchit, on se rend compte que l'homme craint beaucoup les autres humains. Par exemple, on craint de juger contre les autres en présence de ses parents ou de ses professeurs. Mais malheureusement, on ne craint pas Allah Azza wa Jal comme on devrait le faire en accomplissant le droit de le craindre. Si une personne impressionnante est présente, nous avons peur au point de ne pas pouvoir parler. Nous essayons de faire preuve d'humilité dans notre comportement avec elle. Si seulement nos cœurs étaient remplis de la crainte d'Allah Azza wa Jal, puissions-nous toujours rester submergés par sa crainte, nous abstenant de faire de mauvaises actions, même dans la solitude comme nous abstenons devant les gens. Si seulement il restait profondément ancré dans nos esprits qu'Allah Azza wa Jal nous regarde et que nous réussissions à nous corriger. چھپکے لوگوں سے کیے جس نے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. Explication de ce couplet de l'imam Ahmad Raza. Le raviveur de l'islam est l'imam d'Ahl Sunnah. L'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi alayh a transmis l'appel à la droiture d'une manière unique à travers ses couplets, dont le premier signifie « Ô pécheur, tu as couvert tes péchés des gens, mais tu as oublié que le Créateur auquel tu as désobéi est conscient de tes méfaits. Pense maintenant à ce qu'il adviendra de toi le jour du jugement. » Le deuxième couplet signifie « Ô pécheur insouciant, reprends tes esprits. La mort est toujours suspendue au-dessus de ta tête comme une épée. Crains Allah, abstiens-toi des péchés. Si tu mènes une vie de péché et d'insouciance et que tu rencontres la mort dans le même état, qu'adviendra-t-il de toi ?» Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. 5 Madani perles sur l'appel à la droiture. Comme l'explique un hadith, le compagnon Abu Dhar Ghifari radiallahu anhu demanda « Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que contenaient les écritures révélées au prophète Moussa alayhi salam ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ils contenaient tous des mots d'admonition tels que « Il est étrange que l'on reste heureux alors que l'on croit à la certitude de la mort. Il est étrange que l'on rit alors que l'on croit à l'enfer. Il est étrange que l'on s'épuise pour le bien du monde alors que l'on croit au destin. Il est étrange que l'on observe le monde et ses changements tout en s'en satisfaisant. Il est étrange que l'on croit à l'examen des actes du jour du jugement, mais que l'on ne fasse toujours pas de bonnes actions. L'effort individuel est l'essence de l'appel à la droiture. Chers frères musulmans, l'essence de l'appel à la droiture est de faire un effort individuel. Préparez-vous à l'effort individuel de cette manière avant de rencontrer un musulman. La personne que je vais rencontrer est un musulman. Quel que soit son degré de péché, il a toujours un statut d'instinct parce qu'il possède le trésor de la foi. Je dois le rencontrer afin de promouvoir la religion d'Allah Azzawajal et d'améliorer ma vie après la mort. Le rencontrer avec cette intention sera considéré comme un acte d'adoration. Si vous rencontrez les autres avec ces intentions, les bienfaits et les bénédictions descendront. Il existe également une autre madani perle à garder à l'esprit. Ne trouvez pas de défaut à ceux que vous rencontrez. Ne parlez pas de quelque chose qui dépasse leur niveau d'intelligence et ne discutez pas de sujets compliqués. 15 intentions pour l'effort individuel. D'innombrables intentions peuvent être formulées lors de la réalisation d'un effort individuel en fonction de la situation. En voici 15. Numéro 1. Je ferai des efforts individuels pour transmettre l'appel à la droiture pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Numéro 2. Après avoir dit et répondu au salam, je serrerai la main chaleureusement. Numéro 3. En disant Sallu ala al-Habib, je ferai réciter aux autres la salade sur le prophète et je le ferai également. Numéro 4. Étant donné que parler à quelqu'un en gardant son regard fixé sur son visage n'est pas sunnah, je parlerai aux autres en baissant les yeux autant que possible. Le bénéfice de transmettre l'appel à la droiture sera multiplié si l'effort individuel est fait les yeux baissés. Inch'Allah. Numéro 5. Avec l'intention d'agir selon la sunnah, je parlerai en souriant. Numéro 6. J'éviterai la moquerie et les propos futiles. Numéro 7. Je parlerai en fonction de la psychologie de la personne qui est en face de moi. Numéro 8. Je ne les embrouillerai pas en discutant de sujets compliqués. Numéro 9. Je ne parlerai pas de la politique actuelle, du terrorisme, etc. Numéro 10 à 12. J'essaierai de développer chez lui l'état d'esprit qui consiste à assister au rassemblement inspiré de la sunna, à voyager avec les madani qafila et à agir selon les livres des actions pieuses. Numéro 13. Au lieu de forcer un nouveau frère musulman à immédiatement se laisser pousser la barbe ou à porter tout de suite un imama, je lui expliquerai l'excellence d'accomplir la prière, etc. Si la personne avec qui vous parlez est rasée de près et qu'il y a un grand espoir qu'elle commence à se laisser pousser la barbe si elle est motivée à le faire, alors il sera wajib de l'empêcher de se raser la barbe. Mais il est généralement difficile de se faire une opinion sur un nouveau frère musulman. La non-pratique de la religion est très répandue de nos jours. Si vous faites pression sur un nouveau frère musulman pour qu'il se laisse pousser la barbe, il pourrait même vous éviter la prochaine fois. Numéro 14. Si l'autre personne me parle sur un ton dur ou moqueur, je ne montrerai pas de signe de contrariété. Au contraire, je resterai patient, doux et gentil dans mon discours. Numéro 5. Si l'effort individuel porte ses fruits, je le considérerai comme une grâce d'Allah Azza wa Jal et je lui exprimerai ma gratitude. Si quelque chose de désagréable se produit, je considérerai que c'est le résultat de mon manque de sincérité au lieu de traiter l'autre de sans-cœur, etc. Une importante madani perle pour les mobalir. Un mobalir doit avoir beaucoup de courage et de persévérance. Il n'y a aucune cause d'échec, car celui qui fait un effort individuel et transmet l'appel à la droiture avec de bonnes intentions est éligible à la récompense de l'au-delà. Hujjatul Islam, Imam Muhammad Ghazali, rahmatullahi alayhi, raconte. Donnant des conseils à son fils, un aîné pieux dit « Celui qui effectue l'appel à la droiture doit développer une patience habituelle. Il doit avoir la certitude qu'Allah lui accordera la récompense de cette action. Celui qui est absolument sûr de la récompense ne ressent aucune douleur en accomplissant cette action bénie. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. » Résultat d'un effort individuel continu. L'état d'un frère musulman de Sialkot, au Pakistan, était incroyablement mauvais avant qu'il ne commence à suivre le chemin de la piété. Couvert de péchés, de la tête aux pieds, il avait organisé une bande pour combattre les gens, etc. Ses camarades de classe, ses professeurs et le directeur de l'école étaient tous fatigués de son langage obscène et offensant. Jeter des regards illicites lorsqu'il sortait faisait partie de son quotidien. Il était non seulement impliqué dans des amours illicites, mais aussi dans des actes inappropriés qui ne peuvent être décrits. Son ignorance des connaissances islamiques était telle qu'il ne savait même pas comment faire le roussel correctement. Pendant le mois sacré du Ramadan, même les grands pécheurs abandonnent leurs péchés et s'engagent dans l'adoration. Malheureusement, il avait l'habitude de rester sur la place du marché, satisfaisant improprement son cœur noirci par des regards illicites. Il avait l'habitude de passer l'Aïd dans les parcs et la date sacrée du 12 Rabiul Awwal dans les marchés et les lieux touristiques. Lorsque la fête du printemps Bassant arrivait, il s'habillait en jaune comme les autres qui célébraient cette fausse coutume et dansait avec eux. Il était si négligent dans le rappel d'Allah Azza wa Jal qu'il ne se rendait pas pendant des mois à la mosquée. Son père accomplissait la prière ponctuellement et était une personne pieuse. Il conseillait souvent son fils, mais ce dernier faisait toujours la sourde oreille et était tellement pécheur que quiconque lui tenait compagnie devenait également pécheur. Il était devenu détestable aux yeux des gens à cause de ses mauvaises actions. Enfin, un tournant s'opéra dans sa vie. Alors qu'il passait près d'une mosquée, il rencontra un fidèle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui demanda d'entrer et d'accomplir la prière. Il refusa d'abord, mais le dévot insista affectueusement. l'amena même par la main jusqu'à la mosquée. Après qu'il ait accompli la prière, un frère musulman commença à délivrer un dars. S'asseyant pour l'écouter, il commença à entendre des événements parlant de la miséricorde et du pardon d'Allah Azza wa Jal. Cela apporta du réconfort à ce cœur. Lorsque le dars se termina, les frères musulmans lui transmettèrent l'appel à la droiture d'une manière extrêmement affectueuse, ce qui produisit un profond effet sur son cœur. Pour autant qu'il s'en souvienne, c'était la première fois de sa vie que quelqu'un le rencontrait avec autant d'affection, alors que la plupart des gens avaient une mauvaise estime de lui. Il raconta l'histoire de ses péchés au Moballir qui avait fait un effort individuel sur lui et qui était du même âge. Le Moballir lui parla de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et le consola d'une manière qui apaisait son cœur. Encouragé et éclairé, il se rendit compte que la porte du repentir ne s'était pas fermée pour lui. Allah Azza wa Jal est miséricordieux et pardonneur. Le frère musulman s'est ensuite repenti de tous ses péchés précédents et a accompli les 5 prières en une journée pour la première fois de sa vie. Une fois ses examens annuels terminés et ses vacances annuelles commencées, il commença à se rendre à la mosquée le matin avec ce dévot du messager, où il apprit les règles de la prière et de la sunna jusqu'à presque midi. Après un certain temps, Satan le poussa à fréquenter des personnes peu sages qui l'incitèrent à avoir une mauvaise opinion de ce Moballir de Da'wat-e Islami. Hélas, il commença à voir son gentil ami comme son ennemi. Prêtant attention aux médisances qu'il entendait, il abandonna les bonnes fréquentations et resta avec des mauvaises personnes pendant environ un an, adoptant à nouveau ses anciennes mauvaises habitudes. Mais il était destiné à être un disciple spirituel du cheikh Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi alayh. La chance lui sourit une fois de plus. Un jour, alors qu'il rentrait de son travail, jetant des regards ici et là, commettant le méfait de regarder illégalement et de taquiner les piétons, il vit un dévot du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam venir vers lui. Il était vêtu de vêtements blancs, d'un imama vert et avait les yeux baissés. En voyant l'éclat de la piété sur son visage, il se sentit pris de remords pour ses péchés. S'avançant à sa rencontre, le dévot lui répondit par un salut très amical. Ils se présentèrent et progressivement, il commença à rester en sa compagnie. Le frère musulman fut impressionné par la constance du dévot dans la prière et commença une fois de plus à avoir une bonne opinion de Da'wat-e Islami. Ce dernier l'emmena également au rassemblement international inspiré de la sunna. Lorsque le frère musulman revint, il portait un chapeau blanc. Plus tard, il orna sa tête d'un imama. Au moment où nous écrivons ces lignes, il commence un cours sur le Madani Qafila au Madani Marqaz de Faizan et Madina à Babul Madina Karachi. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ala Muhammad. Chers frères musulmans, avez-vous vu comment un pécheur récidiviste a finalement été conduit sur le droit chemin par la bénédiction de l'environnement religieux de Da'wat-e Islami? Il est certain que l'on doit s'abstenir de tout péché car il n'y a rien de bon en eux. Voici un appel coranique à la droiture, contenant des encouragements à s'abstenir des péchés et des conseils pour éviter l'auto-éloge pour des actes d'adoration. Il est mentionné dans le verset 32 de la sourate An-Najm, traduction de Kanzul Iman, ceux qui évitent les grands péchés et les indécences, sauf qu'ils se sont approchés du péché et se sont abstenus. En effet, le pardon de votre Seigneur est très vaste, il vous connaît bien, il vous a créé à partir de l'argile. Et lorsque vous étiez des fœtus dans le ventre de vos mères, par conséquent, ne prétendez pas que vous êtes pur. Il sait bien qui sont les pieux. Commentaire de ce verset. Allama Sayyid Muhammad Naimuddin Muradabadi Rahmatullahi alayh a écrit en commentaire: un péché est un acte qui rend son auteur passible de sanctions. Il existe deux types de péchés, majeurs et mineurs. Le premier implique une punition sévère. Certains savants ont expliqué qu'un péché mineur est celui qui n'entraîne aucun avertissement spécifique, alors qu'un péché majeur est celui qui en entraîne un. Les fawahish sont des péchés qui impliquent l'application de châtiments fixés par la charia. Commentant, sauf qu'ils se sont approchés du péché et se sont abstenus. Commentant, sauf qu'ils se sont approchés du péché et se sont abstenus. Il écrit: ceux-ci sont pardonnés par les bénédictions et l'abstention des péchés majeurs. Élucidant sur, en effet, le pardon de votre Seigneur est très vaste, il vous connaît bien. Il ajoute: en ce qui concerne la cause de révélation de ce verset, il fait référence à ceux qui avaient l'habitude d'accomplir de bonnes actions et de les louer en disant: nous accomplissons la prière, nous observons le jeûne et nous accomplissons le hajj. Commentant l'expression: par conséquent, ne prétendez pas que vous êtes pur. Il poursuit en disant: ne louez pas vos bonnes actions avec orgueil, car Allah lui-même sait dans quel état se trouvent ses serviteurs. Il sait tout, de leur création à leur dernier jour. Ce verset contient l'interdiction de la riya, c'est-à-dire l'ostentation, et de l'éloge de soi. Il est permis de mentionner ses bonnes actions dans le but de reconnaître les faveurs d'Allah, de se réjouir des actes d'obéissance et d'adoration, ainsi que d'exprimer sa reconnaissance à leur égard. Commentant, il sait bien qui sont les pieux, il déclare: le fait qu'il sache est suffisant. C'est lui qui donne la récompense. Quel est le bienfait d'exprimer ses bonnes actions aux autres et de se vanter? Le plus aimé des actes. Un homme de la tribu des Khatam vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda: es-tu celui qui prétend être le messager d'Allah? Oui, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme demanda ensuite: quel est l'acte le plus aimé d'Allah azza wa jal? Croire en lui. Quel acte après cela? Traiter les proches avec gentillesse. L'homme demanda à nouveau: le prochain meilleur acte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua: enjoindre le bien et empêcher le mal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à la Kaaba: chers frères musulmans, sans aucun doute, la meilleure et la plus importante des actions est de croire. Les bénéfices de toutes les bonnes actions dans l'au-delà dépendent également du fait de mourir avec la foi. Il est relaté dans Sahih al-Bukhari: innamal a'malu bil khawatim. Les actes sont selon les fins. En gardant cela à l'esprit, les musulmans sont les plus chanceux des gens. Comment peut-on décrire leurs vertus alors que le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'est un jour adressé à la Kaaba et a dit: comme toi et ton parfum êtes pur, comme toi et ta sainteté êtes grand, par celui dans le pouvoir duquel se trouve la vie de Muhammad. En effet, dans la cour d'Allah, la sainteté de la vie d'un croyant, de sa richesse et de la bonne opinion qu'on a de lui est plus grande que ta sainteté. Le malheureux privé de foi n'aura aucun bienfait ni confort dans l'au-delà. Il sera puni pour toujours en enfer. Passons maintenant à la description de ces questions. Description terrifiante de l'enfer. comme on le trouve aux pages 97 et 98 de Jahannam Mali Janeva Le A'mal, volume 1, publié par Maktamatul Madina. Le deuxième calife des musulmans, Sayyiduna Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, dit au célèbre tabi'i Ka'b al-Ahbar, radiyallahu anhu, « Ô Ka'b, parle-nous des sujets qui inspirent la frayeur. » Répondant à cette demande, Sayyiduna Ka'b al-Ahbar, radiyallahu anhu, dit « Ô chef des croyants, après avoir vu ce qui se passe le jour du jugement, même si tu viens avec les actes de 70 prophètes, alayhimussalam, tu considéreras ces actes comme étant moindres. » En entendant cela, Sayyidina Umar radiallahu anhu baissa la tête pendant un certain temps. Lorsqu'il reprit son sang-froid après son état de larmes, il dit « Ô Ka'b, dis-nous en plus. Ô chef des croyants, si une partie de l'enfer égale à la taille de la narine d'un taureau est ouverte à l'est, le cerveau d'une personne présente à l'ouest bouillirait et s'écoulerait à cause de sa chaleur. » En entendant cela, Sayyidina Umar radiallahu anhu inclina de nouveau la tête. Quand il eut retrouvé son calme, il s'exclama « Ô Ka'b, dis-nous en plus !» Ô chef des croyants, le jour du jugement, l'enfer grondera de telle sorte que chaque ange de proximité ou envoyé messager s'agenouillera et dira « Rabbi Nafsi, ô mon Seigneur, je te demande ma propre protection. » Il dit encore « Le jour du jugement, Allah rassemblera tous les gens, les premiers et les derniers, sur une seule plaine. Ensuite, les anges descendront et se tiendront en rang. » Après cela, Allah dit « Ô Jibril, fais sortir l'enfer. » L'archange Jibril alayhi salam fera sortir l'enfer alors qu'il est tiré par 70 000 rennes. Quand l'enfer est à une distance de 100 ans, il grondera si férocement que les cœurs des auditeurs trembleront de peur. Lorsqu'il grondera à nouveau, tous les anges proches et les messagers envoyés se mettront à genoux. Lorsqu'il grondera pour la troisième fois, les cœurs des gens monteront jusqu'à la gorge et leur esprit sera envahi par la peur. Par la suite, le prophète Ibrahim alayhi salam dira humblement « Ô mon Seigneur, grâce au fait que je sois ton Khalil, je ne te demande que pour moi-même. » Le prophète Moussa alayhi salam dira humblement « Ô mon Seigneur, grâce à mes supplications, je ne te demande que pour moi. » Sayyidina Isa alayhi salam dira humblement « Ô Seigneur, au nom de l'honneur que tu m'as accordé, je ne te demande que pour moi-même. » Je ne te demande même pas concernant Maryam radiallahu anha qui m'a donné naissance. » Chers frères musulmans, un semblant des horreurs de l'enfer peut être clairement ressenti dans la narration ci-dessus. Bien que cette narration contienne également une description sur le niveau de peur des prophètes alayhimussalam, il faut rappeler que ces prophètes alayhimussalam sont ma'soum, c'est-à-dire infaillibles. La situation décrite dans la narration existera pendant certaines périodes du jour du jugement. Dans le cas contraire, ils ne subiront aucun désagrément ce jour-là. En effet, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ils jouiront eux-mêmes de statuts élevés et intercéderont pour les gens. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.